Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire, Asia Bibi, la femme pakistanaise chrétienne condamnée à la pendaison en 2010 pour blasphème, définitivement acquittée. Le pape François aux Émirats Arabes Unis et puis focus sur l'essor à travers le monde des nationalismes religieux. La Cour suprême du Pakistan a donc su résister aux pressions des islamistes. Mardi dernier, elle a rejeté un recours déposé contre l'acquittement d'Asia Bibi, acquittement prononcé le 31 octobre dernier qu'avait mis dans la rue des milliers d'islamistes en colère. Asia Bibi, cette paysanne analphabète accusée par ses voisines de blasphème, c'est-à-dire d'injure envers le prophète, va donc recouvrer la liberté et retrouver ses enfants, vraisemblablement au Canada. Des hommes ont été assassinés au Pakistan pour l'avoir défendu et s'être élevé contre le délit de blasphème qui touche davantage proportionnellement la petite minorité chrétienne, mais dont sont aussi largement victimes les musulmans. Des journalistes aussi ont pris des risques, comme Anne-Isabelle Tollet avec nous dans ce studio, correspondante pendant 3 ans au Pakistan qu'elle dut quitter en 2011 pour s'être intéressée de trop près au cas Asia Bibi. Anne-Isabelle Tollet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit 2 ouvrages sur Asia Bibi. Votre réaction aujourd'hui, il y a le soulagement, mais au-delà, c'est le courage des juges.
Absolument. Donc ces juges ont mis un terme au dernier obstacle qui empêchait Asia Bibi de quitter librement le Pakistan. Et en effet, avoir pris cette décision montre à quel point, d'abord, la justice pakistanaise est indépendante, qu'elle ne subit pas les pressions des extrémistes islamistes qui étaient présents lors de cette révision potentielle du procès. Parce que, en effet, pour les auditeurs, c'est peut-être un peu compliqué, mais le 31 octobre dernier, elle a été acquittée par la Cour suprême, mais les fondamentalistes religieux ont demandé à ce que ce jugement soit révisé éventuellement pour des raisons de vice de procédure, parce qu'évidemment ils étaient furieux qu'Asia Bibi puisse être acquittée pour la chose qui importe le plus pour ces islamistes, qui est le délit de blasphème. Et même si ils jugent que la personne n'est pas coupable, ces islamistes, eh bien ils considèrent qu'une simple accusation de blasphème mérite d'être punie, et donc ils réclament encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux sa pendaison. Mais les juges ont fait preuve de sang-froid et de courage, vraiment, il faut les saluer, parce que lors de ce dernier procès qui a eu lieu mardi à la Cour suprême du Pakistan, il y avait tout un banc d'islamistes, des oulémas qui exerçaient une pression folle sur les juges en leur martelant quand même qu'ils n'allaient pas en rester là et que c'était une offense à l'islam que d'acquitter Asia Bibi. Et malgré tout, ils ont jugé que d'abord, elle avait déjà eu des dommages collatéraux puisque ça fait presque 10 ans qu'elle a été emprisonnée, alors que les juges pakistanais estimaient qu'elle était innocente, que les accusations ne tenaient pas. Et donc, ils sont su rester la tête droite et haute et fière en acquittant et en permettant à Asia Bibi de quitter cette fois librement le territoire pakistanais.
C'est un geste d'un très grand courage parce qu'aujourd'hui, clairement, ces juges risquent leur peau.
Ah oui, ils sont parfaitement identifiés. Donc, ils ont demandé une protection policière, mais ça durera pas toute une vie. Et on sait à quel point ces fanatiques religieux ne lâchent rien. Et donc, ils ne seront jamais tranquilles, finalement, ces juges au Pakistan. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Asia Bibi doit impérativement quitter le Pakistan, parce qu'elle ne pourrait pas vivre, mais au sens propre du terme, elle ne pourrait pas rester en vie si elle restait au Pakistan, parce que un jour ou l'autre, il y aurait forcément un fanatique zélé qui tuerait Asia Bibi, tout simplement.
Ouais, c'est comme lorsque vous êtes poursuivi par la mafia, quoi.
Oui, mais d'une certaine façon, ils ont une fatwa sur la tête, tous ces gens-là, et donc ça va être compliqué, et c'est pourquoi, encore une fois, ces juges ont fait preuve d'un immense courage, et je les salue, et je salue le Pakistan, parce que le Pakistan est double. Il y a un côté sombre, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Et donc, à travers cette décision des juges de ne pas céder à la pression islamiste, eh bien, c'est un grand espoir pour l'ensemble, d'ailleurs, des Pakistanais qui craignent, eux aussi, les représailles des islamistes.
Oui. Là, vous pensez aux musulmans qui sont aussi, effectivement,
très clairement,
qui peuvent être sous le coup de cette loi.
N'importe qui peut être sous le coup de cette loi, puisqu'elle est utilisée pour régler des fins personnelles, des conflits de voisinage. Donc, personne n'est à l'abri d'une accusation de blasphème. Et c'est pourquoi c'est un soulagement aussi pour tout le Pakistan, parce que désormais, ça sera peut-être plus compliqué d'accuser comme ça, sans preuve, quelqu'un de blasphème, ça crée un précédent. Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura des manifestations à nouveau dans les rues ?
Eh bien, on se souvient le 31 octobre dernier qu'il y avait eu trois jours de manifestations monstrueuses à l'appel du Tehrik-e Labbaïk, qui est le parti religieux pakistanais très violent et extrémiste, qui sont particulièrement sensibilisés sur les questions de blasphème. Et c'est vrai que pendant trois jours, ils ont mis le chaos, hein, tout simplement, au Pakistan. Ils ont même appelé l'armée à se mutiner. Et le pays était paralysé, cette fois, parce que le Premier ministre pakistanais, qui est plutôt modéré et très ouvert...
Donc Imran Khan.
Imran Khan, que j'ai rencontré, moi, personnellement, et que je connais. Donc je sais que c'était un atout, le fait qu'il soit au pouvoir, alors qu'Azébibi n'avait pas encore été rejugé. Eh bien, il a mis en prison le leader de ce parti, il y a trois semaines, ainsi qu'une centaine de ses fidèles, si bien que ça a un peu calmé quand même les esprits. Et puis, même si, après que la Cour suprême mardi ait prononcé définitivement l'acquittement et la liberté totale pour Azébibi, eh bien, ce TLP, ce Tehrik-e Labbaïk, a appelé à manifester. Pour autant, ça fait pchit, parce que les autorités pakistanaises avaient anticipé aussi, avaient fait en sorte qu'il y ait une forte présence policière et militaire là où il y a eu des appels à la manifestation. Et puis, je voudrais saluer aussi les médias pakistanais, qui ont fait preuve de beaucoup de responsabilité, dans la mesure où ils ont fait très attention à ne pas trop ébruiter cet acquittement d'Azébibi, parce qu'ils savaient que ça mettrait, ou que ça risquait à nouveau d'embraser le pays, si bien que cette information-là, sur place en tout cas, elle a été un peu mise en sourdine, de manière à ne pas attiser et de ne pas renforcer les antagonismes entre les religieux et, et les modérés.
Alors que la tentation pouvait être grande, effectivement.
Bien sûr, parce que Azébibi, il faut se rappeler que c'est une affaire d'État au Pakistan, ça occupe l'espace médiatique depuis 10 ans. Du coup, ça a été vraiment salutaire que les médias fassent très attention au traitement de cette actualité-là, cette information-là, de manière à ce que, justement, les fanatiques religieux s'excitent un peu moins, si je puis dire, en tout cas, appellent pas à manifester par centaines de milliers comme ils étaient il y a trois semaines dans les rues du Pakistan.
Le délit de blasphème, Anne-Isabelle Tollet, vous pensez par contre que ça, c'est intouchable pour l'instant ?
Alors, c'est intouchable, mais il n'empêche que, grâce au cas d'Azébibi, si je puis dire, eh bien, ça a créé un précédent, parce que d'abord, la Cour suprême, qui a aussi un pouvoir exécutif et qui peut instaurer de nouvelles lois, a décidé, à travers le cas d'Azébibi, d'ajouter cette loi qui dit que quiconque accuse à tort quelqu'un d'avoir commis un blasphème risque à son tour d'être condamné. Donc, c'est une loi dissuasive et qui va sans doute permettre... moins permettre en tout cas d'accuser à tort des personnes de blasphème. Donc ça, c'est une vraie victoire aussi pour le droit et la liberté de tous au Pakistan, même s'il faut pas oublier qu'il y a eu, à travers cette affaire, même si elle se termine bien, des dommages collatéraux.
Bien sûr.
À travers l'assassinat de deux hommes politiques de premier plan.
Qu'il faut souligner. On va rappeler leur nom.
Oui, Salman Taseer, qui a été assassiné par son propre garde du corps pour avoir pris la défense d'Azébibi, c'était le 4 janvier 2011. Et Shahbaz Bhatti, qui lui était ministre chrétien des minorités, a été assassiné par les talibans en mars 2011 pour cette même raison, d'avoir pris la défense d'Azébibi.
Et puis on précisera effectivement que son frère, Paul Bhatti, chirurgien vivant en Italie, eh bien a pris la suite du combat de son frère.
Il a pris la suite du combat de Shahbaz Bhatti quelques années, et puis il s'est rendu compte que c'était compliqué. Lui-même étant menacé de mort, difficile de faire changer cette loi inscrite dans la Constitution depuis 1994. Si bien que pour il a préféré mener le combat à distance, et c'est très salutaire aussi parce qu'il continue de plaider en faveur des Pakistanais, donc contre le fanatisme religieux. Et d'ailleurs, il a salué la victoire d'Azébibi.
Alors, sur un plan personnel, cet acquittement définitif d'Azébibi, vous qui avez coécrit un livre avec elle, en quelque sorte. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Donc vous étiez correspondante à ce moment-là au Pakistan. Cette affaire vous a pris vraiment, véritablement, totalement au corps, j'allais dire. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui ?
Un immense soulagement, et ça montre aussi à quel point, même si vraiment en 2010, c'était pas gagné, c'est qu'Azébibi puisse en sortir vivante, et bien qu'à force d'obstination et de ténacité, on parvient quand même à faire plier un pays face aux pressions des islamistes. Pour moi, c'est une victoire personnelle aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce pays, j'ai beaucoup aimé les Pakistanais. Je savais qu'ils vivaient dans cette terreur de cette loi du blasphème. Donc à travers Asia Bibi, c'était aussi un combat pour les droits de l'homme et pour l'ouverture de ce pays qui est très attachant. En fait, même si on le connaît mal depuis ici, les extrémistes religieux ne sont qu'une poignée par rapport à la population qui est très ouverte et très généreuse envers la communauté internationale.
Vous n'aviez pas pu la rencontrer en prison. Pourquoi ?
Je n'avais pas pu la rencontrer en prison malgré des demandes répétées parce que justement, en 2010, les autorités pakistanaises ne voulaient pas que cette histoire soit ébruitée à travers le monde parce que ça reflétait une image un peu désagréable, délétère du Pakistan. Mais malgré tout, j'ai contourné cet empêchement dans la mesure où, via son mari qui lui pouvait lui rendre visite en prison, ça m'a permis de lui poser des questions indirectement, de récupérer les réponses et de coécrire finalement ce premier livre blasphème avec Asia Bibi et finalement de la faire connaître dans le monde entier.
Alors aujourd'hui, on ne sait pas si elle est sur le départ, a priori, donc elle, bien sûr elle ne pourra pas rester au Pakistan, a priori c'est le Canada le pays qui l'accueillera ?
Vraisemblablement le Canada, même si la France a réitéré encore une fois qu'elle était la bienvenue, pour des raisons finalement assez simples. Le Canada possède une communauté pakistanaise assez importante, ce qui n'est pas le cas en France. Moi, j'avais penché plutôt pour le Canada parce que Asia Bibi ne parlant que l'ourdou, donc elle est analphabète, elle n'est pas instruite, elle ne parle pas l'anglais. Parce qu'il y a une grosse communauté pakistanaise au Canada, ça sera sans doute plus facile pour elle et sa famille de s'intégrer.
Ça sera risqué encore pour elle, Canada ?
Ça sera risqué parce que les fanatiques religieux ont réitéré cette semaine qu'ils n'allaient pas en rester là et qu'il y avait des musulmans partout dans le monde, je les cite, et donc qu'on la retrouverait, mais... Bon, on peut partir du principe que quand même, elle n'aura pas une pancarte autour du cou avec écrit « Je suis Asia Bibi », donc elle pourra vivre assez sereinement au Canada.
Je vous remercie, Anne-Isabelle Tollet. Merci beaucoup pour ce témoignage.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Le pape François, 82 ans, voyage beaucoup en ce début d'année. La semaine dernière, il était au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Il est attendu en fin de journée à Abu Dhabi. Objectif, le dialogue islamo-chrétien et la rencontre avec la communauté catholique composée d'expatriés occidentaux et de travailleurs étrangers, essentiellement d'Asie. C'est la première visite d'un pape dans la péninsule arabique. François y restera jusqu'à mardi. Au programme, une rencontre interreligieuse et une grand-messe mardi matin tôt aux Ayats Sport City, un stade qui porte le nom de Cheikh Zayed, le fondateur de la Fédération des Émirats Arabes Unis en 1971. Il y a un an, le père Ludovic Danto, doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, organisait pour ses étudiants, majoritairement africains, un voyage aux Émirats Arabes Unis. Et nous lui avons demandé s'il avait été surpris par l'annonce du voyage du pape.
Oui, parce que c'était inattendu, mais très heureux en tous les cas. Parce que je pense que les Émirats Arabes Unis sont aujourd'hui dans le cadre du Moyen-Orient, dans cette situation compliquée qu'on connaît de guerre, de régime déstabilisé, un lieu, qu'on peut toujours discuter, mais en tous les cas, un lieu de stabilité avec un gouvernement qui a une véritable politique religieuse, d'ouverture au dialogue. Et lorsque le Saint-Siège cherche, c'est comme ça que je pense les choses, lorsque le Saint-Siège de l'Église catholique cherche des partenaires dans le dialogue, je ne sais pas si on a de nombreuses possibilités, de nombreuses ouvertures. Et en tous les cas, les Émirats, parce qu'ils offrent aujourd'hui, sont un lieu où on peut très certainement dialoguer et poursuivre un dialogue islamo-chrétien. Donc ça m'a étonné parce que c'était inattendu, mais ça ne m'a pas étonné parce que ce pays-là offre un certain nombre de conditions aptes au dialogue.
Et ça vous a conforté dans votre choix, il y a un an, de faire visiter à vos étudiants de la faculté de droit canonique ce pays, enfin, ces Émirats ?
Ah oui, évidemment, ça. J'étais très très heureux parce que je peux vous dire qu'il y a un an, deux ans maintenant, lorsque j'ai évoqué cette possibilité d'aller aux Émirats Arabes Unis, beaucoup se demandaient... dans quel but, pourquoi. D'ailleurs, beaucoup de Français ne situaient pas sur la carte les Émirats Arabes Unis, confondent ce pays avec l'Arabie Saoudite, dont on sait que la liberté religieuse est une question. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'interrogations, parfois beaucoup de sourires, en se disant, mais vraiment, il fait une erreur. Et le voyage que nous avons fait l'année dernière, enfin, oui, maintenant l'année dernière, en février dernier, a démontré que le choix, je crois, était un bon choix. Et le fait que le Saint-Père, évidemment, y aille un an plus tard, estampille d'une certaine, ou conforte en tous les cas mon choix. Mais ça a été une belle occasion pour moi, une grande satisfaction de voir que ce choix des Émirats pour découvrir, parce que c'était cela le but premier de mon voyage, pour voir comment un pays officiellement musulman aujourd'hui pouvait envisager ses relations avec les autres religions sises sur son territoire, que ce choix était un choix judicieux.
Et effectivement, première constatation aux Émirats Arabes Unis, ce sont les églises, et cette possibilité de pratiquer son culte, le culte chrétien, contrairement effectivement à l'Arabie Saoudite voisine.
Oui, en effet, là, je crois que ce qui étonne toujours les étrangers lorsqu'ils découvrent un peu un certain nombre d'ailleurs d'États du Golfe, mais notamment les Émirats Arabes Unis, c'est de voir qu'il existe une véritable liberté religieuse cultuelle. Alors évidemment, cette liberté religieuse n'est pas vécue comme nous la vivons en Europe, en Occident et notamment en France, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la liberté de culte ne soit pas respectée. D'ailleurs, je me souviens que l'une des personnes que nous avions rencontrées nous disait que lorsque les Émiriens recevaient des étrangers pour travailler, puisqu'en général les étrangers qui sont aux Émirats viennent pour travailler, ils ne souhaitaient pas simplement qu'ils viennent travailler et gagner de l'argent, mais qu'ils souhaitaient aussi qu'ils puissent s'épanouir, se développer à travers leurs loisirs, mais aussi à travers la spiritualité, et que lorsqu'ils avaient une religion, il semblait naturel qu'ils puissent pratiquer. Et lorsque vous vous promenez à travers les différents Émirats, hein, les Émirats Arabes Unis, ce sont 7 Émirats, lorsque vous baladez à travers ces Émirats, eh bien vous découvrez différents lieux de culte, et notamment des lieux chrétiens, et donc notamment des églises catholiques.
Bien sûr, avec un grand nombre de messes, dû au fait que les communautés sont très diverses.
Oui, puisque les catholiques sont forcément des étrangers, donc vous avez beaucoup de catholiques provenant d'Asie, d'Extrême-Orient, vous avez aussi beaucoup de catholiques occidentaux, ce qui fait que c'est plusieurs milliers de personnes à la messe chaque dimanche. On a eu d'ailleurs la surprise, ça étonne toujours les gens à qui j'en parle aujourd'hui, mais si vous prenez l'émirat de Sharjah, qui est le troisième émirat des Émirats Arabes Unis, vous avez dans la capitale Sharjah une paroisse catholique, le curé avec grande fierté, je crois qu'il ne ferait pas lire de jalousie un certain nombre de prêtres français, le curé avec grande fierté nous disait qu'il y avait 16 messes dominicales et 4000 enfants catéchisés. Ce sont des proportions inimaginables pour le catholicisme français aujourd'hui et qui démontrent la vivacité et la présence de ce catholicisme au sein même des Émirats, certes dans une société musulmane, hein, qu'il faut respecter, dont il faut respecter les valeurs, mais avec une véritable possibilité, eh bien, d'approfondir sa propre foi lorsque l'on est catholique. D'ailleurs, je me souviens que le vicaire apostolique d'Abu Dhabi, Mgr Inder, nous disait que aux Émirats Arabes Unis, il est naturel de croire, et que donc lorsqu'on est catholique, il est naturel de croire dans la foi catholique.
Alors c'est cet esprit d'ouverture, effectivement, qu'il faut souligner, qui est la raison du voyage, la possibilité de ce voyage du pape François aux Émirats Arabes Unis. Ça vient de Cheikh Zayed, donc le fondateur des Émirats Arabes Unis.
Oui, ce qui nous a frappé dans notre voyage d'études, c'est vraiment de voir combien les autorités émiriennes font référence au Cheikh Zayed à tout propos, et en tous les cas comme une sorte d'ADN des Émirats Arabes Unis et d'ADN du gouvernement fédéral, puisque le Cheikh Zayed, qui était l'émir d'Abu Dhabi, a fédéré cet ensemble le d'émirats, et que de tradition coutumière, on dirait presque aujourd'hui, que le président de la fédération, c'est l'émir d'Abu Dhabi. Le Cheikh Zayed, dont on fêtait d'ailleurs l'année passée le 100e anniversaire de la naissance, et donc on a vu évidemment son portrait un peu partout aux Émirats, et c'est vrai que lorsqu'on relit la vie du Cheikh Zayed, il y a chez lui cette volonté que tout étranger qui vient dans son émirat puisse pratiquer et honorer son Dieu, si telle est sa volonté. Parce que pour Cheikh Zayed, homme profondément croyant, il est normal d'honorer son Dieu. En ce sens-là, la foi est naturelle, là aussi. Et ce qui fait que très vite, avant même la décolonisation, puisque les Émirats faisaient partie des États de la trêve, ce qu'on disait autrefois, et donc étaient sous domination ou sous contrôle ou sous domination britannique, avant même le départ des Britanniques et la constitution de la Fédération, le Cheikh Zayed a permis la construction d'églises. Et ainsi, la première église catholique qui a été inaugurée l'a été en 1966. Donc le culte catholique est présent aux Émirats depuis 1966. Il ne l'était plus depuis l'avènement de l'islam dans cette partie du monde. Donc on peut y voir là véritablement un véritable choix du cher Zayed et qui aujourd'hui fait partie de l'ADN constitutionnel des Émirats Arabes Unis.
Il y a également, alors ça peut faire sourire, mais bon, ça a quand même une véritable signification dans cette région du monde, il y a un ministère de la tolérance.
Oui, ce ministère de la tolérance, qui est le ministère qui s'occupe notamment des relations avec les autres religions, mais aussi de la promotion des droits de la femme, des droits de l'homme, etc. En tout cas, ce ministère a vraiment pour but de promouvoir un dialogue et une tolérance entre les religions. Évidemment, aujourd'hui, dans le contexte international, l'islam est souvent questionné sur son rapport aux autres religions, sur la violence qu'on peut voir dans certains pays musulmans. Et on voit bien ici qu'il y a une vraie volonté des Émirats Arabes Unis de s'enraciner dans l'enseignement coranique et de démontrer que grâce à cet enseignement coranique, il y a la possibilité de promouvoir une volonté de dialogue, en tout cas promouvoir un dialogue entre les différentes religions et une vie pacifique entre les différents croyants. À titre d'exemple, d'ailleurs, il y a 2 ans maintenant, le prince héritier, le cher Mohamed, a décidé que la mosquée qu'il avait fait construire et qui se trouve près, qui jouxte la cathédrale Saint-Joseph, la cathédrale catholique à Abu Dhabi, que la mosquée qui portait son nom, comme il est tradition, vous le savez en islam, que les mosquées portent le nom de leur fondateur, que cette mosquée désormais ne serait plus la mosquée du cher Mohamed, mais serait la mosquée Marie-Mère de Jésus. Marie-Mère de Jésus, c'est un titre que l'on trouve dans le Coran, c'est évidemment un titre que l'on trouve dans la Bible chrétienne, et donc pour lui, c'était une manière de montrer que malgré nos différences religieuses, nous pouvons avoir des points communs à partir même de nos textes. Et il a honoré ainsi les chrétiens présents dans ce quartier d'Abu Dhabi en donnant le nom de mosquée Marie-Mère de Jésus. Je crois que le vicaire apostolique était très heureux. La cathédrale s'appelant Saint-Joseph, il y avait comme ça un clin d'œil à la Sainte Famille.
Bon, tout ça évidemment dans les limites de la loi islamique, c'est-à-dire que la conversion est évidemment impensable.
Oui, il est évident que dans le système émirien, il y a une véritable liberté religieuse cultuelle qui est vue comme une liberté communautaire. Et ça, c'est certainement la question qui interroge le plus les Occidentaux que nous sommes, où nous, aujourd'hui, nos libertés, avant d'être communautaires, sont d'abord des libertés individuelles. Donc, il est évident que là, nous avons 2 approches complètement différentes de ce que c'est que la liberté et le rapport à la communauté et à l'individu. Donc, un musulman aux Émirats Arabes Unis ne pourra pas devenir chrétien. C'est un fait, ou c'est même c'est du droit, mais c'est une autre manière de penser que nous ne partageons pas, mais nous devons au moins regarder ce qui, pour nous, est déjà positif. Et je crois que l'acceptation par les Émirats Arabes Unis de la possibilité pour les autres religions d'avoir une expression cultuelle sur leur territoire est importante. Je dis souvent qu'il n'est pas toujours simple en France de construire une mosquée, parce que nous avons un paysage culturel catholique. Eh bien, il n'est pas peut-être toujours simple dans certaines parties du monde de construire une église, mais quand chacun fait un effort, c'est déjà un signe prometteur de dialogue et d'ouverture à l'autre. Ce qui n'est pas toujours évident.
Le père Ludovic Danteau, doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Turquie, Birmanie, Sri Lanka, pour ne citer que ces pays. Depuis les 3 dernières décennies du XXe siècle, un nationalisme d'une nouvelle nature a fait son apparition et continue de se développer, le nationalisme religieux, cette idéologie qui convoque nation et religion dans un mariage inédit, mais ô combien puissant politiquement. Ce phénomène politico-religieux est si fort qu'il a suscité un ouvrage collectif. L'essor des nationalismes religieux, c'est son titre, publié chez Démopolis, réunit une bonne vingtaine d'experts, chercheurs, universitaires et journalistes sous la houlette d'un journaliste de RFI, Olivier Dallage, lui-même spécialiste du Moyen-Orient et de l'Inde. Bonjour Olivier Dallage.
Bonjour.
Alors, en lisant cet épais ouvrage collectif, eh bien on se dit, Olivier, qu'il était vraiment temps de l'écrire, de le publier, et même que c'est qu'un début, que ça n'est qu'un début, que vous avez défriché en quelque sorte un phénomène.
Oui, c'est le sentiment qu'on a acquis à mesure qu'on avançait dans la recherche. Au début, je voyais ça d'une manière assez plate, si vous voulez. On va faire l'état des choses. Et à mesure qu'on choisissait les pays, puisque par définition, il a bien fallu faire une sélection, une vingtaine de pays, c'est déjà beaucoup. Ça fait un livre de 440 pages déjà. Mais il y en a plein qui ont été laissés de côté parce que, tout simplement, on peut pas tout faire. C'est pas une encyclopédie. Mais on voyait que il y avait évidemment des spécificités qui sont assez importantes. C'est pas le même modèle qui est plaqué partout, il y a des conditions historiques différentes, mais il y avait des traits communs, et surtout, on voyait la chose progresser, avancer, et la périodisation dans l'histoire, à l'échelle de l'histoire, je dirais, il y a une grande synchronisation, finalement, de ce mouvement. Et dans le titre « L'essor des nationalismes religieux », les trois mots ont leur importance, nationalisme et religieux, bien entendu, mais essor aussi, parce que, vraiment, c'est un développement qui est en cours et qui a commencé il n'y a pas très longtemps.
Alors, cette synchronisation, vous l'expliquez comment ? Par l'histoire, notamment, de ces pays. Souvent, ce sont des pays qui ont été colonisés.
Souvent, mais pas uniquement. Et notamment, il y a une part importante qui est laissée à l'Europe dans cet ouvrage. On aurait pu penser que, pour simplifier et caricaturer, il s'agissait de pays en développement, anciennement colonisés, qui avaient fait une première expérience, puis une deuxième expérience, qui est aujourd'hui celle du nationalisme religieux. Ça existe aussi. Mais ça ne rend pas compte, par exemple, de ce qui se passe, je ne sais pas moi, en Pologne ou en Hongrie, ou aux États-Unis, parce qu'il y a une forme de nationalisme religieux aussi à travers le rôle des évangéliques qui représentent un cœur de soutien d'abord à George Bush, puis aujourd'hui à Donald Trump. Ce ne sont pas des pays colonisés récemment. Donc, non, ça ne suffit pas comme explication. Oui, alors, il y a des facteurs historiques, mais en fait, ce qu'on retrouve au-delà des spécificités, c'est que... alors. D'une part, ils s'influencent aussi les uns les autres, il y a un effet d'imitation, mais c'est la déception par rapport au modèle antérieur, et ça vient prendre la place de ce qui n'a pas marché.
Bon, c'est très humain ça en fait aussi, hein, c'est très politique et très humain.
Oui, mais ça concorde en plusieurs endroits de la planète au même moment.
La mondialisation ou la globalisation, hein, selon que l'on prenne un terme ou l'autre, qui veulent dire en gros la même chose, c'est un rôle aussi.
C'est un rôle capital parce que fondamentalement, on y reviendra, mais le nationalisme religieux, comme d'ailleurs très souvent le nationalisme tout court, mais a fortiori s'il est religieux, est d'essence culturelle. C'est-à-dire que beaucoup plus que l'aspect divin ou croyance, qu'il faut absolument pas négliger, parce que bien entendu, les gens ne sont pas cyniques, ils croient vraiment à ce qui est leur moteur. Mais il y a un aspect culturel, la façon de s'habiller, la façon de vivre, et le sentiment qu'on est agressé par des cultures qui viennent de l'extérieur. Alors ça peut être les télévisions par cette élite, ça peut être l'arrivée de communautés immigrées qui arrivent avec leur propre culture, ça peut être plein de choses, et aussi la menace réelle ou supposée que représente la mondialisation pour sa sécurité économique. Et donc on a besoin de se replier sur quelque chose qui rassure. Ce qui rassure, c'est la communauté elle est très souvent religieuse.
Les inégalités économiques, vous les mettez aussi dans les explications de ce nationalisme religieux ?
C'est sûrement un facteur.
Mais c'est pas le seul, bien sûr.
D'une part, ça n'est pas le seul. Et deuxièmement, il n'y a pas de relation mécanique qu'on peut facilement observer. Thomas Piketty, qui s'est fait une spécialité de l'étude des inégalités économiques, a écrit quelque part que dans la naissance de l'État islamique en Irak et en Syrie, il y avait le déclassement de population. C'est un élément. Est-ce que c'est le principal facteur ? Je crois qu'on peut pas le dire comme ça.
Alors, cet ouvrage collectif commence par effectivement un exemple, j'allais dire, le plus patent, le plus simple, c'est celui d'Israël, avec ce sionisme qui au départ était proprement laïque, qui devient, au fil des ans, un sionisme religieux. C'était complètement inattendu pour les fondateurs de l'État d'Israël, ça.
On peut même aller jusqu'à dire, comme le dirait l'auteur de ce chapitre, de Dominique Vidal, que les fondateurs d'Israël se révolteraient aujourd'hui contre l'Israël tel qu'il est devenu. Mais je pense que cette logique-là peut s'appliquer par exemple au Pakistan. Je suis pas sûr que Mohamed Ali Jinnah reconnaîtrait le Pakistan qu'il a contribué à créer.
Oui, et Nehru l'Inde.
Et Nehru l'Inde, etc., etc. Oui, les sionistes, en fait, même Theodor Herzl, n'étaient pas des gens très religieux.
On très peu religieux.
On
même.
Peut même dire que certains d'entre eux laïque, étaient certains, pas loin oui. de l'athéisme.
Oui.
En revanche, il y avait, et on revient à la donnée culturelle, il y avait le sentiment que la communauté des Juifs répartie à travers la planète, d'une part, était menacée par l'antisémitisme, mais deuxièmement, avait des traits culturels qui justifiaient qu'on puisse parler d'une population, d'un peuple, etc. Et donc, voilà, c'était un combat essentiellement d'essence anticoloniale qui a contribué à créer un État qui n'a pas de constitution, parce que justement, il y avait un grand désaccord entre les fondateurs d'Israël sur État religieux et État pas religieux. Donc, ils ont créé ce qu'ils ont appelé le statu quo, avec des lois fondamentales qui tiennent lieu de constitution, et beaucoup de concessions aux rabbins, mais ce n'était pas un État religieux. Les choses, évidemment, ont beaucoup changé depuis.
Avec beaucoup de concessions aujourd'hui aux ultra-orthodoxes. Hein.
Alors, les ultra-orthodoxes, précisément, un grand nombre d'entre eux ne sont pas du tout sionistes.
Oui, parce que eux, effectivement, estiment que Israël ne doit pas être un pays, en fait. C'est cela.
Pas avant que le Messie soit revenu sur Terre. Donc, il y a plein de contradictions, mais ils se satisfont aussi de ce que font les nationalistes religieux, qui ne sont pas ultra-orthodoxes, mais qui leur créent des conditions plus favorables que ce qu'ils connaissaient avant.
Alors, le danger de tout cela, c'est bien sûr la paix. Cette paix qui devient effectivement, qui s'éloigne avec cette montée du nationalisme religieux.
Disons que le problème du nationalisme religieux, c'est le problème du nationalisme exacerbé par la religion. Le nationalisme est déjà assez intransigeant par nature.
Oui.
Et il ne porte pas beaucoup au compromis. Mais si en plus on y met un facteur religieux, et encore une fois j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cyniques qui utiliseraient la religion, certains dirigeants le font, mais je dirais le gros de la troupe croit vraiment à des croyances.
Oui, et prendre la Bible pour un cadastre, hein, comme ça a
par
été
exemple,
dit. Hein.
Par exemple, si on prend ce cas-là. Et donc, si leurs croyances sont validées par Dieu, le compromis n'est pas possible. Et si en face vous avez des gens qui également se sentent inspirés par Dieu, et qui ne sont pas prêts au compromis, ça rend quand même le conflit extrêmement difficile à résoudre.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, effectivement, dans cet ouvrage collectif, c'est que l'on voit que du côté palestinien, ce phénomène s'est produit aussi. La religion est venue à la rescousse de ce combat pour un État palestinien.
Oui, mais comme le dit très bien Nicolas Daude-Pouillard qui a écrit ce chapitre, il y a un mouvement, croisé. Le Fatah de Yasser Arafat, qui était un mouvement entre guillemets laïque, a absorbé de plus en plus de religions musulmanes.
Il y avait le Hamas en face aussi.
Et étant entendu qu'il y a des chrétiens aussi dans le mouvement national palestinien. Et le Hamas, qui s'est créé sur une base religieuse, est en fait devenu un mouvement nationaliste palestinien à connotation religieuse. Et quelque part...
C'est un croisement.
Il y a un croisement. Et on voit que les nationalistes laïcs se sont, comment on pourrait dire, religiosifiés.
Oui, on peut dire comme ça.
Et les militants musulmans politiques sont devenus des incarnations de l'esprit national palestinien.
C'est là où l'analyse est difficile.
Oui, et je crois qu'il est très important d'admettre qu'on n'est pas dans le domaine des sciences exactes, que la question de la définition aussi est très importante. Après tout, est-ce que nationalisme et patriotisme, c'est différent? Ça dépend des auteurs. Donc, les mots ne sont pas très importants à partir du moment où ils sont expliqués. Et que le lecteur ou le locuteur sait de quoi on parle, on a une certaine latitude pour choisir un terme plutôt qu'un autre.
On reste, j'allais presque dire, dans la région, la Turquie. Ça, c'est le cas type, effectivement, d'un pays qui va se réislamiser après une période laïque, hein, celle de Mustafa Kemal, un pays qui va se réislamiser.
Alors, la question se pose toujours de savoir si le pays est réislamisé ou est-ce qu'il se révèle tel qu'il était, mais on ne le voyait pas parce qu'il y avait une chape de plomb par-dessus.
L'ambiguïté, vous voulez dire, de Mustafa Kemal?
Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté de la part de Mustafa Kemal, mais après tout, la règle qu'il a imposée, est-ce que véritablement en dessous, le gros de la population la faisait sienne entièrement?
Il y a eu des résistances, c'est sûr.
Il y a eu des résistances, et on peut penser que les deux mouvements ont coexisté. Et d'une certaine manière, la Turquie de Erdogan, bien entendu, fait une grande place à la religion, mais elle fait une grande place aussi à la grandeur de la Turquie qui fait appel au souvenir de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, on le caricature souvent en nouveau sultan, mais il est certain que les ambitions d'Erdogan pour la Turquie ressemblent ressemble beaucoup à la reconstitution partielle de ce qui a pu être l'Empire ottoman, qui était un empire musulman et en même temps un empire terrestre. Donc la conjonction des deux n'est pas impossible. On essaie de reconstituer un passé glorieux, ou en tout cas qui est embelli. Et d'ailleurs, le mythe de l'âge d'or revient absolument partout dans tous les pays, qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé. Le plus souvent, il n'a pas existé.
Mais comment expliquer quand même qu'un Mustafa Kemal, dans les années 20, va demander aux femmes d'enlever le voile, on va prendre l'alphabet latin, etc., etc. Comment expliquer quand même qu'aujourd'hui, comment expliquer cette trajectoire vers un nationalisme religieux?
Alors, Mustafa Kemal était nationaliste, on peut pas lui retirer ça.
Mais religieux, je dis nationalisme religieux.
Oui, les mots ont leur importance. Donc la brique nationaliste était déjà là dans l'édifice.
Bien là même, oui.
Voilà. Donc il n'y a pas eu besoin de la créer. Et la brique religieuse, je m'interrogeais sur sa disparition ou son atténuation. Et est-ce que ça n'était pas un effet d'optique, parce que tout simplement c'était un pouvoir fort qui éliminait les signes extérieurs de religiosité. Je pense qu'il y a un petit peu des deux.
Et qui copiait l'Occident.
Et on a vu la même chose avec Nasser en Égypte. Et on a vu la même chose dans d'autres pays où il y a eu également cette tendance-là. Donc c'est un peu le danger, et d'ailleurs c'est quelque chose qui traverse les exemples. La fin du 19e siècle et le 20e siècle, dans les trois quarts de ce siècle, ont été marqués par le succès de mouvements nationalistes ou anticoloniaux, qui étaient donc nationalistes, proto-nationalistes, fondés sur un positivisme a-religieux, je ne dis pas athée, mais a-religieux, croyant au progrès social et au progrès rationaliste, et donc la religion était minorée dans le discours. Et la déception quant aux résultats obtenus par ces nationalismes quand ils sont arrivés au pouvoir a fait place à ce qui restait, qui était, je dirais, en second rang, troisième rang, qui avait été un peu dissimulé, et qui était la religion, et donc le nationalisme religieux.
Et qui a réémergé, on a pu le voir en Irak, par exemple, avec Saddam Hussein.
En Irak et en Iran, parce que historiquement, dans la période moderne, le premier succès nationaliste religieux, c'est la révolution islamique iranienne. À l'époque, on l'a pas comprise comme ça. En 1979, on est au 40e anniversaire. On a pris ça comme quelque chose de très particulier à l'Iran. Mais il faut se rappeler que le Shah d'Iran avait essayé de prendre modèle sur Mustafa Kemal en imposant à la société de se dépouiller d'un certain nombre d'attributs religieux. Et ça a été perçu comme une humiliation par une grande partie de la population. Et c'est ça qui a nourri en large partie la révolution islamique iranienne. Et donc, si vous mettez bout à bout la Turquie, l'Iran, l'Égypte de Nasser, où aujourd'hui les courants religieux sont très importants, il faut pas se tromper. C'est pas parce que les frères musulmans ont été chassés du pouvoir par le maréchal Sissi que le poids de la religion n'est pas énorme en Iran aujourd'hui. Quant à Saddam Hussein, il avait, pendant la guerre Iran-Irak, viré de bord complètement pour épouser les attributs de la religion, et il avait même fait inscrire Allahu Akbar sur le drapeau irakien, soi-disant avec son propre sang.
Et d'ailleurs, lorsqu'il a été exécuté, il a crié Allahu Akbar, non ?
Oui, mais parce que, encore une fois, l'erreur, et là, je dirais, c'est l'erreur des observateurs français, c'est qu'on est tellement marqué par notre propre tradition laïque qu'on a très souvent tendance à sous-estimer l'importance que la religion peut avoir ailleurs. Et donc, je pense que ce travail collectif qu'on a fait a mis en évidence que si on chausse des lunettes qui essayent de regarder les sociétés avec les yeux des gens de ces sociétés-là, eh bien, on y voit des choses que la culture française ne prédispose pas à voir, et notamment le rôle de la religion.
Et comme en France, d'ailleurs, ce reproche est souvent fait à la gauche de ne pas avoir vu effectivement l'importance de la religion pour les musulmans.
Mais bien entendu. Or, il suffit pas de vouloir que les gens s'adaptent à notre façon de voir. Il faut aussi faire la démarche inverse, ne serait-ce que pour comprendre, et après on fait les choix qu'on veut. Mais si on ne comprend pas, on risque pas de faire les bons choix.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Olivier Dallage, qui a dirigé le livre collectif « L'essor des nationalismes religieux » publié chez Démopolis. Alors Olivier, on va aller vers un pays que vous connaissez bien, c'est l'Inde. L'Inde, ce pays à lui seul, décrit très bien cet essor des nationalismes religieux.
Oui, parce que le premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, qui est resté jusqu'à sa mort premier ministre en 64, était lui-même agnostique, certains diront même athée. Et quand il avait reçu Malraux, qui le raconte dans ses antimémoires, Malraux lui demande qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire. Nehru hésite et il dit bah, finalement ça a été de faire d'un pays religieux un pays laïque. Et effectivement, l'Inde est laïque, la constitution indienne d'ailleurs depuis les années 70 le dit. Il faut s'entendre quand même sur la définition, parce que là aussi le prisme français ne permet pas de comprendre.
Les mots sont piégeux, oui.
Voilà, la laïcité à l'indienne, c'est le principe d'équidistance. C'est-à-dire que l'État n'ignore pas les religions, il se tient théoriquement à équidistance de chacune d'entre elles pour leur donner les mêmes chances. Et on voit bien que le nationalisme religieux a repris du poil de la bête, avec notamment la victoire importante du BJP de Narendra Modi aux élections générales de 2014, tout simplement parce que le parti du Congrès qui avait mené l'Inde à l'indépendance et qui, comme d'autres mouvements nationalistes, je pense à l'ANC ou à l'OLP, s'est transformé en parti politique, sauf que les contradictions internes d'un mouvement nationaliste qui regroupe des gens très très différents finissent par éclater. Ceux qui sont de tendance plus sociale, socialistes vont dans une direction, ceux qui sont de tendance plus libérale d'une autre, etc., etc. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes pour lutter pour une indépendance et pour diriger un pays. Et Nehru a imposé un dirigisme économique qui a eu des succès, mais qui a aussi eu ses limitations. Donc le parti progressivement s'est érodé, et puis quand on reste longtemps au pouvoir, il y a de la corruption. Et ça a donné de l'air aux nationalistes religieux qui existaient déjà en Inde depuis assez longtemps, mais qui n'avaient pas pu véritablement prendre une importance. Et dans les années 70, 80, 90 et surtout maintenant, ils ont pris une importance considérable et ils sont au pouvoir.
Et d'ailleurs, le chapitre que vous consacrez à l'Inde commence par cette histoire d'un parlementaire d'Uttar Pradesh qui demande, alors c'est quand même l'État le plus peuplé effectivement de l'Inde, qui demande à ce que le pays prenne le nom d'Hindoustan. Et puis après vous évoquez effectivement, toutes les c'est même plus que les tracasseries, cette minorité chrétienne qui ne peuvent pas fêter Noël comme elles l'entendent, etc., etc. Ces musulmans qu'on attaque parce qu'ils ont mangé de la viande, on les accuse d'avoir mangé de la viande sacrée, etc., de la viande de vache.
Oui, et d'ailleurs c'est rigolo parce que Hindoustan, ça vient d'un mot persan ou arabe, Hind qui signifie l'Inde, alors que si on prend le mot sanskrit, c'est Bharat. Voilà, donc en fait, il y a eu un métissage très important, et il y a d'ailleurs des découvertes génétiques très très intéressantes et très récentes, qui montrent que la quasi-totalité des Indiens sont métissés de peuples qui viennent des steppes et d'autres qui viennent d'Asie de l'Ouest, c'est-à-dire du Moyen-Orient. Donc même probablement parmi les extrémistes hindous, ils ont quelque part des gènes qui viennent du Moyen-Orient, où sont également les Arabes, ou des steppes d'Asie centrale. Je ferme la parenthèse, mais c'est un sujet extrêmement chaud en Inde, parce que l'idée est que seuls ont droit de citer véritablement les religions qui sont nées en Inde, c'est-à-dire l'hindouisme, quelle que soit la définition qu'on lui donne, et la définition actuelle est extrêmement récente, mais le jainisme, mais le bouddhisme, qui en fait sont des scissions de l'hindouisme pour échapper à des contraintes trop fortes, mais les nationalistes hindous veulent les récupérer. Bon, on rentre très loin dans les détails. Et les religions halogènes, comme le christianisme, l'islam, ne sont que tolérées. Elles représentent des invasions étrangères et on leur demande d'adopter culturellement l'hindouisme. Ce qui est effectivement extrêmement difficile pour les musulmans et pour les chrétiens. Quand on leur demande de faire le salut au soleil le matin, ça n'est pas juste une posture de yoga. C'est une posture également religieuse que le gouvernement actuel voulait imposer dans les universités. Finalement, c'est facultatif. Mais ils ont le droit à condition de marcher à l'ombre, de continuer d'être des citoyens indiens. Les nationalistes ne leur reconnaissent pas le même droit que les autres.
Ne pas se faire trop voir et trop remarquer. Alors, à lire ce chapitre, merci les Anglais quand même, merci les Britanniques. On a envie de dire de façon un petit peu ironique, les Britanniques ont une grosse responsabilité dans tout cela, non ?
Ben, comme tous les colonisateurs partout où ils sont passés.
Oui. Il y a des scissions qui ont été créées, supplémentaires à une société qui était déjà très fragmentée.
Oui, ça tient d'une part à la théorie bien connue du divisé pour régner, divide and rule.
C'est très britannique, oui.
Oui, mais aussi cette volonté analytique quasiment entomologique de mettre tout dans des cases, etc. Et donc, ils ont séparé les deux branches de l'hindoustani, qui était la langue courante, qui est en fait une langue bâtarde entre le sanskrit et le persan, et qui a donné naissance à la fois au hindi et à l'ourdou, qui comporte la même grammaire et beaucoup de mots communs, sauf que certains viennent du stock sanskrit et d'autres du stock persan. Ils ont séparé les éducations et, d'une certaine manière, en s'appuyant sur la minorité musulmane pour diriger, parce que partout, les colonisateurs font la même chose, ils s'appuient sur une minorité qui dépend d'eux pour leur survie, pour diriger la majorité. Eh bien, ils ont suscité un nationalisme hindou...
En protégeant, ou en donnant l'impression de protéger les musulmans.
Exactement, par un effet contradictoire.
Donc, ça rajoutait de la division à la division.
Et ils ont même inventé le système des castes modernes qui ne correspondait absolument pas au système des castes de l'hindouisme. C'est-à-dire qu'il y a les quatre grandes castes, ce qu'on appelle les Varnas, qui représentent les castes au sens traditionnel de l'hindouisme. Et par ailleurs, il y a les Jatis, qui sont en fait, qu'on appelle aujourd'hui des sous-castes, mais qui sont en réalité des professions héréditaires. Donc un tanneur, ses enfants seront également tanneurs, et il est lui-même fils de tanneur, etc. Et les Anglais ont voulu à tout prix faire entrer au chausse-pied les sous-castes dans les grandes castes. Or, ça ne marchait pas comme ça dans la vie traditionnelle. Mais de fait, c'est devenu la réalité d'aujourd'hui.
Alors, il y a un moine qui manifestement a eu un point important auprès du Premier ministre.
Yogi Adityanath.
Voilà, c'est ça, oui.
C'est-à-dire qu'il représente une des franges les plus extrémistes du BJP, et le Premier ministre Modi l'a nommé à la tête de l'Uttar Pradesh après les élections remportées par le BJP en 2016, je crois. Et ce moine, soldat, parce qu'il faut bien dire les choses, est extrêmement agressif contre toutes les autres minorités. Et donc, par exemple, il a voulu faire disparaître le Taj Mahal, des sites touristiques à visiter.
Des circuits touristiques habituels, voilà, oui.
Or, ça, c'est sur son territoire, l'Uttar Pradesh. Récemment, un policier qui essayait de mettre de l'ordre a été lynché à mort par des gens qui protestaient contre du trafic de bétail. Eh bien, le Premier ministre en question n'a eu aucun mot pour ce policier qui essayait de faire son travail. Et pour lui, ceux qui sont vraiment coupables, ce sont ceux qui, éventuellement, parce que ça reste à prouver, voulaient trafiquer du bétail pour un abattage de vaches qui est interdit en Uttar Pradesh. Et donc, en mettant la vache au-dessus des êtres humains, comme c'est le cas de certains de ces extrémistes hindous, et en l'assumant au niveau du gouvernement, eh bien, il incarne ce que pourrait être l'Inde nationaliste hindoue si son expérience était étendue à l'ensemble du territoire.
On le verra lors des prochaines élections au printemps, donc on verra si le BJP effectivement garde son influence. Dernière chose, à propos de l'Inde toujours, un dernier mot, Olivier Dallage, les mariages mixtes, là encore, tout à fait contrôlés, si je puis dire.
Alors ça dépend où. Oui. Dans les grandes villes, ça pose de problème en général, mais bien entendu, dans les coins un petit peu plus reculés, ce qui représente quand même une grande partie du territoire indien, il est extrêmement mal vu qu'une jeune hindoue épouse un jeune musulman. Et d'ailleurs, ce fameux Yogi Adityanath a même dénoncé le love jihad. C'est-à-dire que pour lui, c'est une stratégie diabolique de terroristes qui veulent mener le jihad en forçant de jeunes hindous qui n'ont pas toute leur tête à épouser des musulmans pour faire de petits musulmans et donc dominer la population hindoue à terme. Faut remettre les choses en place. Il y a 80% d'hindous et 14% de musulmans, on n'en est vraiment pas là.
Alors, on ne pourra pas malheureusement aborder tous les pays qui sont traités dans ce livre collectif. Quelques mots sur le Pakistan voisin. Hein, on parlait de l'affaire Asia Bibi en début d'émission. Là aussi, le Pakistan a été touché de plein fouet par l'essor du nationalisme religieux.
Le Pakistan est peut-être le seul pays moderne qui est né d'un nationalisme religieux, puisque c'est une idée, le Pakistan. C'est l'idée d'un poète et d'un avocat qui ont réussi, lors du combat pour l'indépendance, à imposer une partition pour qu'il y ait un pays juste pour les musulmans. Sauf que dans leur idée, c'était un pays pour des intellectuels musulmans, je dirais, de l'Inde du Nord, et c'est devenu de fait un pays essentiellement tribal, marqué par des traditions tribales qui n'ont parfois qu'un rapport très éloigné avec l'islam. Et on voit bien que le gouvernement central n'arrive pas à imposer ses règles à ses tribus. Et d'ailleurs, il faut reconnaître au Pakistan une complexité qu'on lui ignore souvent. Il y a eu un hindou à la tête de la Cour suprême du Pakistan et des chrétiens ont pu et continuent d'exercer des responsabilités importantes. Donc, même s'il y a plus de 90% d'habitants du Pakistan qui sont des musulmans, il y a une place pour les minorités, même si ça n'est pas une partie de plaisir tous les jours.
Oui, c'est un pays effectivement tout à fait complexe, le Pakistan. Alors, Olivier Dallage, on terminera par, je dirais, les dangers, effectivement, les dangers de l'essor du nationalisme religieux, la violence en premier, le rejet des minorités, un grand danger pour la démocratie.
Oui, parce que Le point commun à presque tous ces nationalismes, c'est une majorité qui a peur des minorités et qui du coup restreint ses droits et qui encourage des milices autoproclamées à agir souvent de façon violente ou en tout cas brutale à l'encontre de ces minorités.
Il y aura un second chapitre, j'allais dire, à ce grand livre, parce qu'on sent que c'est vraiment le début de quelque chose. Hein. Vous avez défriché là.
Oui, je pense que ce qui serait souhaitable, c'est que d'autres prennent le relais pour élargir la recherche. Il nous est apparu clairement qu'il y avait un objet, c'est le nationalisme religieux, qui jusqu'à présent n'avait pas ou peu été étudié en tant que tel globalement. Voilà. 20 pays, c'est pas beaucoup par rapport à ceux qu'il y a sur l'ensemble de la planète. Il n'y a pas du nationalisme religieux partout, mais il y en a dans bien d'autres pays que ceux que nous avons abordés.
Je vous remercie, Olivier Dallage. Donc, je rappelle le titre de ce livre, L'essor des nationalismes religieux, et c'est publié chez Démopolis. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Olivier Raoul vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.